La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, d'où vient que les nombres sont fascinants ? Permettez-moi d'abord d'avouer publiquement que je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles conversations scientifiques qui, cette année, seront diffusées tous les samedis à 16h sur France Culture. Il va sans dire que je vous espère tous en grande forme. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Alors, en guise de remise en jambe possiblement nécessaire de nos neurones, nous allons parler des nombres. Oui, des nombres, et apprendre à mieux les déchiffrer, si j'ose dire. Vu de loin, il n'y a rien qui ressemble plus à un nombre qu'un autre nombre. Pourtant, il en existe de toutes sortes. Il y a des nombres entiers, aussi appelés naturels, des nombres relatifs, réels, parfaits, premiers, autodescriptifs, magiques, imaginaires, rationnels, irrationnels, transcendants, et d'autres encore. Il y en a même qu'on appelle les nombres péadiques. Mais nous l'avons tous remarqué, les nombres en général, et surtout les calculs qu'on fait avec eux, font peur à certains d'entre nous. Pourtant, quand on fait l'effort de s'approcher d'eux en douceur, avec bienveillance et sans trop d'appréhension, ils peuvent devenir des amis et même de fascinants amis. Mais pour cela, et c'est ce qui rapproche les mathématiques de l'alpinisme, il nous faut un guide de bonne compagnie. La bonne nouvelle du jour, c'est que j'en ai trouvé un. Bonjour Étienne Gys.
Bonjour Étienne.
Gys, ça s'écrit G-H-Y-S, mais ça se dit Gys.
Voilà, en tout cas, c'est comme ça que disait mon papa.
Voilà, vous êtes mathématicien, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de recherche au CNRS, et vous venez de publier « Ma petite histoire des nombres » aux éditions Odile Jacob. Alors, comme première question, Étienne Gys, je ne peux pas m'empêcher de citer un proverbe belge que j'ai appris grâce à Nicolas Martin. « Quand le merle chante en mai, avril est fini ». Façon de dire qu'avril n'est pas perpétuel, contrairement à vous. Vous êtes secrétaire perpétuel. Que veut dire ce mot ? Est-ce que c'est pas trop lourd à porter ? Et comment est-ce que vous vivez le temps qui passe ?
Bon, c'est un mot qui est tout à fait ringard, mais qui est associé à une grande tradition. Donc l'Académie des sciences a été fondée il y a fort longtemps, en 1666. Et à l'époque, on avait décidé que l'administration de l'Académie serait sous la charge d'un académicien qui serait à perpétuité. Et donc depuis, on a continué à employer ce mot que personne ne comprend, puisque ça n'est ni secrétaire, ni perpétuel. Donc tout à fait, c'est un mot qui est en même temps sympathique et en même temps un peu arrogant. Aujourd'hui, la perpétuité, je peux te dire combien de temps ça dure 8 ans.
Bon, c'est déjà pas mal, hein ?
C'est pas mal.
Alors, quand j'étais enfant, je pensais qu'un nombriliste était quelqu'un qui aime les nombres. J'aurais donc dit de vous, puisque vous aimez les nombres, est-ce que vous savez comment cela vous est venu, à quel âge ?
Alors, c'est intéressant parce que j'ai écrit ce petit livre sur les nombres, alors que ma spécialité en mathématiques et mon domaine mathématique n'est pas spécialement relié aux nombres. Moi, je suis avant tout un géomètre. Mais il est vrai que dans le public général, quand on dit maths, on pense calcul. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre par le côté calcul, mais personnellement, je ne suis pas très doué en calcul, et je ne l'ai jamais été. J'ai toujours été fasciné par la géométrie, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu. La géométrie et les nombres sont intimement liés.
Alors, j'ai dit que vous aimiez les nombres, pas les chiffres. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avouez dans votre livre que vous n'aimez pas le 6.
Oui.
Alors, le 6, qu'est-ce qui vous a fait ?
C'est une petite histoire personnelle. J'ai tenu à la mettre, à la raconter au début de mon livre, parce que j'aurais raconté ce livre comme étant un peu intime. J'aurais raconté des choses qui me relient intimement au nombre. Et en effet, lorsque j'étais, je crois que c'était en CE2, la maîtresse nous avait demandé d'apprendre les tables de multiplication jusque 6. Et puis elle m'a fait réciter la table devant tous les copains, et je ne la connaissais pas. Et là, humiliation suprême, elle m'a condamné à ne pas aller en récréation et à étudier la table de 6 pendant la récréation. Ce que j'ai fait, parce qu'après tout, un petit gamin normalement constitué, il apprend la table de 6 en un quart d'heure sans difficulté. Mais j'étais furieux. Et je me souviens encore de cette hargne.
Mais vous n'êtes pas remis, on dirait.
Non, encore aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même complètement dingue, parce que cette prof m'a humilié devant mes copains, et j'ai appris la table de 6 parce que c'est pas si dur que ça. Et puis finalement, quand les copains sont revenus, je la connaissais par cœur. Et aujourd'hui, le 6 ne me plaît pas parce qu'il me rappelle ce mauvais souvenir. Et
pourtant, c'est un nombre parfait.
C'est un nombre parfait, en effet.
Est-ce que vous pouvez en rappeler la définition, Étienne Vie ?
Alors, on dit qu'un nombre est parfait lorsqu'il est égal à la somme de ses diviseurs. Alors, 6 est divisible par 1, par 2, par 3. 3 plus 2 plus 1, ça fait 6. Et c'est pour cette raison que 6 est parfait. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Euclide a déterminé tous les nombres pairs qui sont parfaits. Et à ma connaissance, on n'en connaît pas d'impair.
La question est ouverte. On ne sait pas s'il existe des nombres parfaits impairs.
Moi, on me demandait encore l'autre jour, est-ce qu'il y a encore des choses à faire en mathématiques ? Voilà un exemple. Alors, vous me direz à quoi ça sert ?
496 est parfait, je crois.
Ben, c'est probable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cet équilibre... quand on fait des maths, entre des choses qui ne servent à rien et puis des choses qui sont utiles. Et cette dichotomie, en fait, elle est souvent un peu subtile. La frontière entre les deux ne l'est pas tout à fait.
Elle est variable.
Elle est tout à fait variable. Donc, c'est intéressant. Les nombres parfaits, à ma connaissance, il n'y a pas d'intérêt ou d'application pratique à ce jour.
D'ailleurs, je commande aux auditeurs et aux auditrices de se saisir d'un stylo et d'une feuille de papier, parce que peut-être au cours de l'émission, il y aura des petits calculs à faire qui pourront éventuellement les fasciner. Question importante, c'est quoi la différence, Étienne Gis, entre un chiffre, un nombre et un numéro ?
Alors, oui, j'ai jugé utile de l'expliquer. Donc, un chiffre, c'est un symbole. C'est de la même manière que nous faisons tous une différence entre un mot et une lettre. Eh bien, la lettre, le mot est constitué de lettres de la même manière qu'un nombre est constitué de chiffres. Voilà.
Oui, mais il y a une petite différence quand même, c'est qu'une lettre dans un mot, elle a la même signification quel que soit le mot, alors qu'un chiffre dans un numéro n'a pas la même valeur selon la place qu'il occupe. Par exemple, si j'écris 111, le premier 1 désigne une centaine, le deuxième une dizaine, le troisième une unité, et donc sa valeur dépend de sa place.
Ça, c'est absolument génial. Quand on se rend compte qu'il a fallu tant de temps pour que les mathématiciens arrivent à comprendre la numération de position, de comprendre que la place d'un chiffre à l'intérieur d'un nombre est capitale, que 206 et 260, ce n'est pas le même nombre, c'est extraordinaire. Je cite quelque part un texte de Laplace, où Laplace est en admiration totale.
Le bien nommé d'ailleurs.
Voilà, Laplace, il est en admiration totale devant le fait que cette chose nous est si familière. On le sait tous, même ceux qui disent qu'ils sont nuls en maths, ils le savent. Tellement de gens disent qu'ils sont nuls en maths, et en fait... ils ne sont pas si nuls en maths que ça, puisqu'ils maîtrisent un outil qu'il a fallu attendre des siècles avant qu'on puisse les maîtriser.
Alors, je ne sais plus qui disait, il y a trois sortes de gens, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas compter.
Alors ça, c'est une blague qui fait rire que les mathématiciens.
Non, tout le monde. Testée, elle fait rire tout le monde. Alors, je vais vous faire subir, Étienne Gis, un petit test. Vous êtes d'accord que si on parle en anglais, 12 plus 1, ça donne... 11 plus 2, 12 plus 1, ça donne 11 plus 2, c'est-à-dire 13. Mm-hmm. Et peut-être que puisque vous avez parlé de lettres et de mots, vous avez remarqué que c'est aussi une anagramme.
Ah.
12 plus 1, c'est les mêmes lettres que 11 plus 2.
Incroyable.
Mais encore mieux, si je dis 101 moins 60 plus 15, le résultat est 56, ça vaut aussi 51 plus 11 moins 6.
Mais comment tu sais pour trouver tout ça ?
Et ce n'est pas moi qui ai trouvé, c'est Jacques Périssalkov qui a montré que cette égalité est aussi vraie comme anagramme. Ah. C'est-à-dire que c'est les mêmes lettres qui permettent d'écrire 101 moins 60 plus 15 que celles qui permettent d'écrire 51 plus 11 moins 6.
En fait, donc voilà encore un autre exemple d'une chose qui ne sert à rien et qui est tout à fait...
C'est des jeux et des lettres, mais d'une façon très spectaculaire en l'occurrence.
Tout à fait, bravo.
Et petit test aussi, si je prends les 9 chiffres... que j'écris du plus grand vers le plus petit.
De 9... 10 chiffres, de 0, pas oublier le 0.
Non, moi je mets pas le 0.
Ah bon.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je divise par la même suite dans l'autre, en renversé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je divise le premier par le second, ça donne quoi ?
Mais on sait rien.
Et bien moi je vous le dis, ça donne 8. 8,50, 4, 5, 2, 9. C'est presque 8. Ça sert à rien, mais c'est beau.
Voilà, cette histoire est intéressante.
C'est-à-dire
cette balance entre ce qui sert à rien et ce qui est beau, et ou ce qui est utile, parce qu'on ne peut pas nier que les nombres sont aussi très utiles partout, tous les jours, et ils ont ce côté esthétique qui nous fascine.
Puisque vous parlez d'esthétique, ça tombe bien, puisque dans votre livre, Étienne Gis, Vous parlez assez longuement et de façon passionnante du phénomène de synesthésie. Il y a des personnes qui voient les chiffres en couleur,
ouais.
D'autres voient les lettres en couleur.
C'est incroyable.
Ça fait penser à Rimbaud, hein, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles, je dirais, quelques jours, vos naissances latentes. Est-ce que c'est une aide pour un mathématicien de voir les chiffres en couleur ?
J'en sais rien, mais je crois que beaucoup de mathématiciens ont en effet ce côté synesthète. Qui n'est pas seulement pour les chiffres, c'est en effet aussi pour les lettres.
Oui, ça aide à faire des anagrammes d'ailleurs.
Et c'est aussi pour la musique, pour les notes de musique. J'ai une collègue qui est excellente mathématicienne et qui me dit que lorsqu'elle entend de la musique, elle voit visuellement la partition. Mais c'est une vision, ce n'est pas inventé. Alors souvent, on peut penser que cette synesthésie, c'est un peu des inventions, mais non, puisque si les gens voient les chiffres en couleur, on leur demande 30 ans plus tard, on leur pose la même question, c'est les mêmes couleurs, il n'y a aucun doute, ils sont synesthètes.
Mais est-ce que les neurosciences nous disent des choses sur la façon dont une telle possibilité s'inscrit dans le cerveau ?
Alors, oui, disent des choses, mais contradictoires. Donc, j'ai discuté avec pas mal de neuroscientifiques qui m'ont expliqué un certain nombre de théories. Il y en a un certain nombre qui sont convaincantes, d'autres un peu moins convaincantes. Il y a un mot qui m'a semblé intéressant, parce que je ne connaissais pas cette structure auparavant, c'est la résonance stochastique. Que je trouve tout à fait passionnante. Enfin bref, les neuroscientifiques s'y intéressent depuis très longtemps. Ils ont fait des progrès, mais heureusement pour eux, ils ont encore des progrès à faire.
Encore de la recherche au programme. Donc.
Voilà.
Je voudrais vous faire commenter, Étienne Gis, une phrase de Nietzsche dans un petit texte qu'il a écrit.
Oh, ça me fait peur.
Non, vous allez voir, c'est directement votre sujet. Ce texte s'appelle « L'avenir de la science ». Il écrit « La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui consacre son travail et ses recherches ». Mais fort peu à celui qui en apprend les résultats. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table d'addition, pourtant si admirable. Ce qui veut dire par là, c'est que quand j'apprends 1 plus 1 égale 2, 2 plus 3 égale 5, etc., j'ai l'impression que c'est assez banal. Or, ajouter des choses identiques les unes aux autres, 2 vaches plus 3 vaches donne 5 vaches, c'est facile, mais abstraire l'idée d'addition de l'idée de chose, donc additionner des nombres purs, c'est comme un saut dans l'abstraction absolument génial.
C'est génial.
Et qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs ce saut ? On dit que c'est les Babyloniens.
Oui, alors je crois que c'est une question qui n'a pas une seule réponse. Hein. Il a fallu beaucoup, beaucoup de nombres.
Ouais.
Les Babyloniens certainement avaient déjà cette abstraction. Déjà, le simple fait d'écrire sur une tablette d'argile ou je ne sais quoi, un symbole qui signifie 3, c'est déjà un saut gigantesque.
Donc là, je pense qui est le même qu'on compte 3 moutons ou 3 vaches.
Exactement. Et en fait, c'est un peu ça qui est assez stupéfiant dans les nombres. C'est que le 3, c'est ce qu'il y a de commun entre 3 moutons, 3 vaches et 3 kilos. Quoi. C'est tout à fait... c'est là que ça devient complètement abstrait. Quoi.
Comment il sait, puisque vous parlez dans votre livre des chiffres romains qu'on a tous appris à l'école et que on trouve sur certaines montres, notamment la vôtre.
Dont la mienne, voilà.
Et comment il sait les Romains pour faire des additions? Et je ne parle même pas des multiplications.
Alors, la réponse est simple, ils n'en faisaient pas, ou très peu. Il y avait quelques grands spécialistes qui faisaient les additions. Alors, par exemple, c'est bien plus tard, je crois que je cite dans mon livre quelque part, une lettre d'un riche bourgeois allemand au Moyen-Âge qui voudrait que son fils soit bien éduqué. Alors il écrit à un professeur d'université dans l'université voisine allemande et lui dit « Voilà, qu'est-ce que vous recommandez pour que mon fils puisse apprendre à calculer comme il faut ?» Et la réponse de l'universitaire est assez étonnante. Elle dit la chose suivante « Si vous souhaitez que votre fils sache faire des additions, une université allemande devrait suffire. Mais si vous voulez aller plus loin et faire des multiplications, alors il faut aller en Italie. » Voilà, ça prouve que le simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on dit que les gens me disent « j'ai jamais rien compris en maths », mais bon, ils savent quand même multiplier 17 par 13 en général. Ils ne se rendent pas compte qu'ils manipulent une espèce de construction théorique colossale.
Mais ça veut dire que les Romains pouvaient vivre sans multiplier.
Bon, les Romains, ce n'étaient pas des très grands ingénieurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour les, C'était des ingénieurs, c'est plutôt des artisans que des ingénieurs, je dirais.
Bon, je ne sais pas comment ils le prendraient, mais ils ont quand même fait des choses incroyables, d'un point de vue technique.
Oui, oui, c'est vrai. Non, mais pour ajouter des nombres en chiffres romains, bon courage. Hein.
Oui, alors, vous parlez de gens qui ont des...
C'est plus compliqué pour les... c'est plus facile, en quelque sorte, pour les Grecs. Il y a ce livre merveilleux d'Archimède, qui s'appelle L'Arénaire. Alors, Archimède a écrit un livre qui, moi, je trouve absolument fascinant, que je recommande à tout le monde, qui se lit en une dizaine de pages, donc 20 pages. Il se pose la question, si je remplissais l'univers de grains de sable, combien faudrait-il de grains de sable? Voilà une question qui ne sert à rien. Mais en fait, l'article ou le livre qu'il écrit, il est destiné au roi de Sicile. Et en fait, c'est comme une demande de crédit CNRS aujourd'hui. Et il essaye d'écrire une motivation pour dire que la recherche désintéressée, ça peut avoir des conséquences. Et là, il commence à dire, mais le problème, c'est que les chiffres et les nombres que les Grecs utilisent sont insuffisants pour symboliser des nombres trop grands. Et alors là, il invente un système de numération, c'est extraordinaire. Et après, il dit, mais c'est quoi la taille de l'univers? Enfin, c'est assez passionnant.
Et de fil en aiguille, il arrive à des résultats fondamentaux.
Il arrive à un chiffre qui est plutôt pas trop stupide, il trouve à 10 puissance 65 en termes modernes. 10 puissance 65
grains de sable pour remplir l'univers.
Alors qu'aujourd'hui, le nombre de particules élémentaires dans l'univers, c'est 10 puissance 80.
85. Oui, mais elles sont plus petites que des
grains de
sable.
Elles sont plus petites, donc il ne s'est peut-être pas trompé, il s'est pas trompé en fait.
Oui, vous pouvez voir les ordres de grandeur, mais ça peut coller, ouais. Oui. Alors, il y a des gens qui sont vraiment très doués avec les nombres, qui ont une sorte de don, voire de génie, quand il s'agit de les manipuler. Il y a un exemple très connu que vous citez, Srinivasa Ramanujan, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça.
Ramanujan, on dit.
Oui. Qui voyait dans le monde des nombres des choses tout à fait étonnantes. Est-ce qu'on est capable d'expliquer cette sorte de don incroyable qu'il avait?
Moi, je pense que non. C'est une histoire stupéfiante qui est. Que là aussi, il faudrait demander aux neuroscientifiques qu'est-ce qu'ils en pensent. Ce monsieur est. Alors, on dit toujours. Alors, je vais raconter rapidement son histoire. Hein. C'est un jeune garçon qui n'avait aucune éducation primaire, à part un instituteur. Qui lui avait, comme toujours, il faut un instituteur quelque part, un professeur, un guide. Hein. Et cet instituteur lui avait donné un livre d'exercice et il s'est passionné pour ça. Il a développé des tas de théories par lui-même et il a envoyé une fameuse lettre, je ne sais plus quel âge il avait, mais il était encore très jeune, il a envoyé une lettre au grand professeur de mathématiques à Cambridge, Hardy. Cette lettre contenait un certain nombre de résultats. Et quand Hardy a ouvert la lettre, il a été stupéfait. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'une bonne partie des théorèmes que Ramanujan annonçait comme nouveaux étaient déjà bien connus. La deuxième raison de stupéfaction, c'est qu'une bonne partie des théorèmes qu'il annonçait étaient incroyables, d'une origine absolument impossible à deviner. Et la troisième raison, c'est qu'une bonne partie était faux. Donc il y avait ce côté de grande spontanéité qui a surpris Hardy. Donc il est parti à Cambridge.
Il l'a invité.
Il l'a invité, il l'a reçu. D'ailleurs, il s'est posé une question pédagogique très intéressante. Vous êtes grand professeur à Cambridge. Vous voyez arriver ce petit jeune et vous vous rendez compte qu'il est génial. Je crois qu'on peut employer ce mot dans ce cas particulier. Et ses connaissances mathématiques sont extraordinaires dans un tout petit domaine des mathématiques. Mais il ne connaissait pas le béaba,
la géométrie.
Il ne connaissait pas le reste, quoi. Et donc, il s'est posé la question, est-ce que je lui demande de faire le cours de première année? Qu'est-ce que je fais, quoi? Et il ne lui a pas demandé. Hein, donc, il a gardé le contact avec Ramanujan comme un collègue qui, toute sa vie, il est mort très jeune. Hein,
32 ans.
Voilà, il est mort à 32 ans. Et n'empêche que pendant toute sa vie, il avait des trous gigantesques dans sa culture scientifique.
C'était un spécialiste, on pourrait dire.
Voilà, c'est un spécialiste.
Je vais vous raconter une anecdote fameuse. Un jour, il est hospitalisé en Angleterre, il est tombé malade. Hardy lui rend visite et précise qu'il est venu dans un taxi dont le numéro est 1729. Moi, ça m'aurait rien fait. Mais
moi non plus.
Ramanujan, il a réagi comme ce nombre est intéressant. Alors pourquoi l'était-il?
Il lui a dit parce que c'est le plus petit nombre qui est la somme de deux cubes de deux manières différentes. C'est tout à fait stupéfiant. Hein.
C'est 10 au cube plus 9 au cube et c'est aussi 12 au cube plus 1,
voilà.
1 au cube.
C'est incroyable.
À tout le monde.
C'est incroyable.
Oui, il l'avait calculé à l'avance, non?
Alors, Hardy a demandé à Ramanujan, mais comment tu peux savoir ça? Et la réponse est tout à fait stupéfiante et elle est tout à fait en accord avec le contenu de mon bouquin. C'est facile puisque les nombres sont mes amis et je connais mes amis. Une espèce de rapport intime avec les nombres que nous avons tous. Moi, mon 6 que j'aime pas, ou je suis sûr que vous aussi, vous avez des nombres que vous aimez ou que vous n'aimez pas.
J'aime bien le 7, moi.
Ben voilà, comme tout le monde, c'est ce que je dis au début.
Mais c'est mon chiffre préféré, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres.
Exactement. Non, mais c'est une chose intéressante.
Mais qu'est-ce que vous appelez, vous qui êtes mathématicien, qu'est-ce que vous appelez l'intimité avec les nombres? C'est le fait de jouer facilement avec eux, d'être fasciné par eux?
De les connaître. Alors, comme je disais au début, moi, je ne suis pas spécialement un amoureux des nombres, je suis plus un amoureux de la géométrie, donc... Il y a des tas d'objets mathématiques que j'aime parce que je les connais sous de nombreuses facettes. Je les ai regardés comme ci, comme ça, autrement. Donc, je ne suis pas Ramanujan jeune, mais je pourrais dire oui, ce sont mes amis.
Il y a un autre calculateur incroyable que vous citez, Étienne Gis. C'est un monsieur qui s'appelait Jacques Inaudi, italien, qui n'a appris à lire et à écrire qu'à l'âge de 20 ans.
C'est incroyable.
Et qui, avant, faisait des calculs incroyables. Il ne pouvait pas lire les chiffres, mais il pouvait les entendre. Enfin, il ne les comprenait que s'il les entendait, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en savez un peu plus sur sa vie?
Alors,
et la façon d'expliquer ce don incroyable?
Expliquer, je ne peux pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est né en Italie, et puis dans un endroit très pauvre. Et puis, je crois qu'il faisait les marchés, et puis finalement, il s'est retrouvé en France. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner un peu d'argent en aidant les paysans à faire leurs additions. Et puis, il s'est retrouvé à Paris, je ne sais pas trop comment. Et là, on s'est rendu compte qu'il était calculateur prodige. Et il a été examiné par un astronome, d'ailleurs.
Camille
Flammarion a décidé de le passer sous scanner, en quelque sorte.
De l'époque.
Il lui a fait faire des exercices, à y comprendre ce qu'il faisait. Et puis, l'anecdote est intéressante, puisque du coup, il gagnait beaucoup d'argent en faisant des spectacles. Et à un moment, Flammarion, qui était directeur de l'Observatoire de Paris, lui a suggéré qu'avec ses compétences, il pourrait peut-être devenir mathématicien. Et il lui a répondu que non, ce n'est pas la peine, puisque déjà, il gagnait 4 fois plus que le... qu'il gagne aujourd'hui, voilà. Donc, non, sa connaissance des nombres était exclusivement auditive.
Oui, il dit « La vue ne me sert à rien, je ne vois pas les chiffres, je dirais même que j'ai beaucoup plus de difficultés à me rappeler les chiffres, les nombres lorsqu'ils me sont communiqués écrits que lorsqu'ils me sont communiqués par la parole. Je n'aime pas non plus écrire moi-même les chiffres, j'aime beaucoup mieux les entendre. »
C'est incroyable. Et alors, c'est intéressant aussi, puisqu'on raconte aussi qu'il a été soumis, en quelque sorte, à une espèce d'épreuve. Je crois que c'était à la Sorbonne. Et puis, pendant une longue période, on lui a demandé de faire des additions, des multiplications, des divisions. Il était tout à fait stupéfiant. Et à la fin de la séance, on lui a demandé s'il se souvenait de toutes les questions qu'on lui avait posées. Et il semble qu'il a répété les 400 questions qu'on lui a posées. Incroyable,
Incroyable.
Le cerveau humain a des capacités
absolument incroyables. Est-ce qu'on peut dire que les nombres sont codés dans le cerveau?
Je pense que oui. Alors là, je sors de mon domaine de compétences, mais il n'empêche que les neuroscientifiques, pour le coup, ont parfaitement compris où se trouvent les nombres. Si je ne dis pas de bêtises, c'est en bas à gauche, là, dans le cerveau.
Quand je pense au nombre 3, il y a quelque chose qui s'agite.
Oui, alors ça, je pense que
derrière
c'est sûr.
Mon cou.
Ça, c'est un fait objectif. Alors, il faudrait demander à Stanislas Dehaene, par exemple, qui pourrait vous le dire. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Là, c'est un fait objectif.
Pour nous amuser, là, j'invite nos auditeurs et auditrices à prendre leur stylo et une feuille de papier. Est-ce qu'on peut calculer facilement le carré d'un nombre de 2 chiffres qui se termine par 5?
Oui.
Comment?
Alors là, c'est pas très difficile. Je laisse les auditeurs réfléchir ou pas? Allez, jusque 5.
Donnez la recette et puis ils l'appliqueront.
Voilà, d'accord. Par exemple, si je veux faire 35 au carré, eh bien, il y a 3 dizaines devant le 5. 3 fois 4, 12. Donc j'écris 12 et je peux suivre par 25. Ça fait 1225.
Donc 35 au carré, c'est 1225.
Voilà.
Okay. Et ça marche quel que soit le nombre
de
2 chiffres qui se terminent par 5.
Alors je vais demander à l'auditeur d'essayer de comprendre pourquoi ça marche.
Alors j'ai fait la démonstration, elle est relativement simple.
Voilà, c'est facile.
À l'heure des calculatrices, est-ce qu'il faut continuer à s'amuser à pratiquer le calcul mental? Moi, à votre avis.
J'en suis bien sûr persuadé, parce que ça fait travailler la tête, d'abord. Et d'autre part, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi par moments, c'est que quand on fait un calcul avec une calculette, très souvent, on se trompe d'ordre de grandeur. Et ce n'est pas au physicien qui est face à moi que je dois convaincre que les ordres de grandeur, c'est quelque chose qu'on n'étudie pas assez à l'école, qu'on devrait insister beaucoup plus. Et les ordres de grandeur, c'est très, très important. Et ça, ça se fait la plupart du temps de tête. Je crois que nous faisons partie tous les deux d'une génération qui avons utilisé les règles à calcul.
J'ai calculé, il y a 4 ans de différence entre nous.
Ah oui?
Ouais.
Mais alors justement, peut-être que moi, j'ai utilisé des règles à calcul.
Mais moi aussi.
Alors voilà.
Il y avait même une épreuve spécifique.
Voilà. Et je pense que nos auditeurs ne savent probablement pas que la règle à calcul, c'est ce qui avait côté de génial, c'est que ça donnait le résultat d'une multiplication, mais ça donnait, il fallait quand même déjà a priori savoir l'ordre de grandeur du résultat pour avoir le vrai résultat, le nombre de zéros en quelque sorte. Mmh. Et c'était.
Mais ça donnait aussi l'idée que les nombres sont dans l'espace quelque part.
Exactement.
Et d'ailleurs, vous avez un chapitre passionnant, j'ai vraiment découvert cet aspect des choses, comment on se représente les nombres dans l'espace, comme s'ils flottaient, alors j'allais dire dans l'air ou dans le vide, oui. Avec une topologie très particulière.
Oui, ou plutôt même une géométrie.
Plutôt une géométrie.
Oui. C'est assez intéressant aussi. Donc si on demande à des gens de comment ils imaginent la suite des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, la plupart, moi par exemple, un peu bêtement, je les vois alignés côte à côte, comme ça. Mais il semble qu'un certain nombre de personnes tout à fait normales les voient parfois en cercle ou en spirale ou dans des géométries tout à fait incroyables.
Assez tordues.
Assez tordues. Et j'ai posé la question autour de moi, c'est assez courant. Quand on demande aux gens, fermez les yeux, comment vous voyez les nombres, souvent ils les placent d'une manière spéciale. Je fais quelques dessins dans mon livre qui sont assez remarquables. Hein. C'est tout à fait étonnant. Hein.
Oui, et puis vous montrez que les nombres qui sont entre, disons, 1990 et 2000, ils nous semblent moins tassés que ceux qui sont entre 19 millions, etc., 10 plus voilà. Grands, etc. Ça, plus ils sont grands, plus on les tasse.
Puisqu'on parlait un peu à l'instant d'ordre de grandeur, ça a l'air de dire que notre cerveau est en quelque sorte câblé logarithmiquement, que nous avons une vision des nombres, non pas en termes de leur taille.
On voit les ordres de grandeur.
Les ordres de grandeur, on voit en fait le nombre de chiffres.
Alors vous êtes mathématicien, Étienne Gis. J'ai cru comprendre que les mathématiciens aiment les paradoxes.
Oui.
Ça les fait réfléchir.
Je crains le pire.
Non, il y en a un que vous citez, donc vous le connaissez bien. Je le trouve incroyable. On appelle Z le plus grand nombre dont on peut donner une définition en français, dont la longueur est inférieure à 1000 lettres. Voilà. C'est le plus grand nombre qu'on peut définir en moins de 1000 lettres en français. Alors c'est une définition qu'on vient de donner qui est plus courte que 1000 lettres.
C'est incroyable.
Donc si on ajoute une unité, Z plus 1, eh bien, il est plus grand que Z, et pourtant Z est plus grand. Et comment je m'en sors?
On ne s'en sort pas. C'est-à-dire que là, on est en train de rentrer dans un conflit entre le langage courant et le langage mathématique, et que la définition que j'ai donnée, le plus grand nombre qui s'écrit en français, etc., n'est pas une définition mathématique, c'est une définition linguistique, une définition du commun des mortels. C'est ça. Alors, il faut savoir que ce paradoxe a perturbé les mathématiciens. J'imagine. De manière fondamentale au début du XXe siècle. Ça a été une catastrophe, un peu la crise, on appelle la crise des fondements.
Ouais.
La crise des fondements qui a été une catastrophe. Maintenant, on s'en est à peu près sorti. On s'en est sorti en disant, bon, on va mettre un peu d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle une définition, en français, ça veut dire quoi. Mais enfin, il n'empêche qu'on a là un paradoxe très perturbant.
Mais à vous entendre, Étienne Gis, on a l'impression qu'il est encore perturbant. Enfin,
oui, il est encore
c'est
perturbant.
C'est pas complètement réglé, cette affaire.
Écoutez, je suis passé il n'y a pas très longtemps, c'est pas encore passé d'ailleurs à France Inter, ça, l'émission Les Petits Bateaux. Et les enfants sont souvent préoccupés par quel est le plus grand nombre. Hein, c'est une question qui vient toujours. Mais les enfants disent, dis papa, c'est quoi le plus grand nombre? Alors, on leur dit toujours, bah non, il n'y en a pas, parce que si tu m'en donnes un, je t'en donne un plus grand, rajoutant un. Mais n'empêche que j'ai quand même une question, quel est le plus grand nombre jamais écrit ou pensé par un être humain? Il n'y a qu'un nombre fini d'êtres humains. Chacun d'entre eux a eu un nombre fini de secondes dans sa vie. Donc il est clair que tous les nombres n'ont pas été imaginés ou pensés un jour. Donc il y en a un qui est plus grand que tous les autres.
Mais une fois lequel... qu'on... Oui, mais si on le connaît, on lui ajoute un.
Et ben voilà. Et on... Exactement.
On déplace le problème.
Voilà. Si... voilà. Je trouve que c'est assez intéressant de même de c'est un peu comme on revient à Archimède. Combien de grains de sable dans l'univers?
Alors il y a un autre théorème de mathématiques qui, là j'invoque un souvenir personnel, m'a toujours troublé, c'est le fait qu'il y a une infinité de nombres premiers.
Ça c'est incroyable.
Et ça j'arrive pas à le comprendre. Je connais la démonstration par l'absurde, elle est assez simple. Mais quand on essaie de voir ce qu'elle implique, on a plutôt l'impression que plus un nombre est grand, ou quand il devient grand, il devient plus facilement divisible.
Voilà.
Or, c'est pas vrai pour tous.
Alors, c'est une histoire intéressante, parce que d'abord, ce théorème qu'il y a une infinité de nombres premiers, on ne dit pas assez souvent que, d'abord, qu'il est très ancien, la démonstration remonte au moins à Euclide, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait déjà la distinction philosophique entre l'infini potentiel et l'infini actuel. Parce que cette démonstration, en fait, elle consiste à dire, si vous me donnez un certain nombre de nombres premiers, je vais en trouver un plus grand. Et c'est en ce sens que c'est infini.
Et un nombre manquant dans votre livre, si je puis me permettre, Étienne Gis, c'est les nombres autodescriptifs.
Ça manque parce que je ne sais pas ce que c'est.
Mais ils ont été très étudiés par John Conway, un mathématicien britannique qui est mort pendant le Covid, mais ils ont été popularisés par Nicolas Curien, un académicien que vous devez connaître. Vous prenez un nombre entier, plusieurs chiffres, et vous décidez de lui associer un autre nombre obtenu de la façon suivante. Le premier chiffre de ce nouveau nombre indique le nombre de zéros qui figure dans le nombre de départ. Le deuxième chiffre sera le nombre de 1. Le troisième, le nombre de 2, etc. Et donc, par exemple, si vous partez de 1031, ben, il contient 1 0, 2 1, 0 2, 1 3 et 0 4. Donc, vous allez l'écrire 12 010. Ok. Donc ça veut dire que dans cette affaire, on tient plus compte du fait qu'un chiffre dans un nombre désigne le nombre de milliers, de centaines ou de dizaines. On ne considère en somme que l'écriture alphabétique du nombre. Mm-hmm. Okay. Et bien on appelle autodescriptif un nombre qui est invariant par cette transformation. Et à votre avis, combien il y en a? Et est-ce que vous en connaissez?
Je ne connais pas. Est-ce qu'il y en a une infinité?
Ah ben non.
Eh bien non.
Ça serait impossible.
Ça serait le théorème de Conway.
Non, non, il n'y en a que 7.
Il y en a 7. Alors c'est quoi le premier?
Le plus petit, c'est 1210. Mm-hmm. Dans 1210, il y a 1, 0, il y a 2, 1, il y a 1, 2 et il y a 0, 3. Le deuxième, c'est 2020. Donc c'est la seule année qu'on va passer comme étant une année autodescriptive. Bon, on l'a déjà passé, mais comme une année autodescriptive. Le prochain, c'est 21200. Etc. Et le dernier, c'est 6 210 millions 1000.
Incroyable.
D'accord. Et donc, il y a ces nombres autodescriptifs à propos desquels il existe de multiples théorèmes. Et notamment, l'anagramme d'un nombre descriptif n'est pas un nombre autodescriptif. Mmh. Par exemple, l'anagramme de 2020, ça peut être 2200. Bah, 2200 n'est pas un nombre autodescriptif.
Alors, on en revient toujours à ces problèmes.
Il faut rajouter un chapitre dans votre livre.
Qui sont un peu... Non, mais je veux dire, est-ce que c'est utile? Est-ce que non. C'est intéressant? Voilà. Et ça serait peut-être bien aussi qu'on parle des nombres qui sont utiles.
Ben, c'est quand même... Il y a quand même des théorèmes... Si vous lisez l'œuvre de Conway, il y a des théorèmes absolument incroyables.
Hein. C'est ce que j'allais dire. Je me demande si Conway n'avait pas quelque chose derrière la tête pour justifier cette définition.
Qu'est-ce que vous feriez, Étienne Gis, si vous appreniez que vous êtes condamné à mort? Quelle serait votre occupation principale?
Je n'en sais rien, mais j'ai quelques idées.
Sur la question.
Que vous pensez à
Condorcet.
À Condorcet, voilà, c'est une très belle histoire.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu simplifier, enfin, non, rationaliser.
Mais Condorcet était condamné à mort par la Convention. Il s'est caché dans une maison, dans le quartier latin, pendant quelques mois, jusqu'au moment où il a appris qu'il a été. Il a été dénoncé, donc il s'est enfui. Je vais commencer par la fin. Donc il est parti dans la campagne. Et puis, à un moment, il avait faim. Il est rentré dans une auberge. Et il a demandé à manger. Et puis, l'aubergiste lui a dit « Qu'est-ce que vous voulez manger ?» Et puis, ce grand homme qui avait travaillé toute sa vie pour le bien de la population générale, qui a l'un
le
des
progrès.
Le progrès, le premier qui avait... déclarait que tous les enfants de France, garçons ou filles, devraient aller à l'école. Il a dit donnez-moi une omelette. L'aubergiste a combien dit combien d'œufs? Il a dit 2 douzaines. Et on s'est rendu compte que ce noble n'avait jamais cuisiné une omelette. Et donc, 2 jours plus tard, il était mort.
Voilà. Il avait peut-être très faim.
Peut-être. Alors, et donc, pendant sa période où il était caché dans cette maison, il a écrit un livre qui est un livre qui s'appelle Arithmétique élémentaire ou je ne sais quoi, dans lequel il essaye de simplifier l'accès des nombres aux enfants. Il part de ces complications qui paraissent un peu bizarres dans la langue française, quand on dit 93, c'est 4 fois 20 plus 13, et des choses de cette nature. Donc il propose une nouvelle terminologie. On dit plus 11, on dit 10-1, on dit plus 12, mais on dit 10-2, etc. On dit bien sûr 90-70. Et il propose ça, ça n'a jamais été mis en vigueur, bien sûr.
Si, en Suisse.
Dans certains cantons.
Oui, mais pourquoi ça n'a pas pris en France et ça a un peu pris en Suisse? 90.
Oui, ça aurait pu. Alors, je vais vous dire, moi, c'est pareil, on parle toujours de nos instituteurs et de nos professeurs. J'ai aussi un souvenir assez précis de mon instituteur, pour le coup, un CM2, qui nous avait fait un cours, justement sur 93, 94, etc. Et qui nous avait expliqué dans la même leçon que 94, c'était 4 fois 20 plus 14, mais aussi comment on écrit 94, comme les règles d'orthographe pour les nombres. Et je me souviens qu'il nous avait expliqué l'hôpital des 15-20 à Paris. Et donc, j'ai ce souvenir assez précis de ce maître qui nous expliquait que dans les nombres, il y a aussi un aspect historique et culturel, et que c'est fondamental. Je ne veux pas qu'on dise 90. Je suis tellement content que quand je dis 90, j'ai le sentiment de participer à l'histoire de France.
Mais d'accord, mais est-ce que ce n'est pas un obstacle pour certains enfants quand il s'agit d'apprendre à compter, à écrire?
Ah oui. Non,
est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, comme le dit Condorcet d'ailleurs,
oui,
qui entrave la compréhension?
J'en sais rien, je ne crois pas, franchement. Alors maintenant, il est vrai, d'après ce que j'ai compris, c'est que si vous demandez autour de vous, je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui n'a jamais remarqué que 85, c'est 4 fois 20 plus 5. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je ne sais pas. On va tester la chose tout à l'heure, mais oui. Je ne sais pas vous répondre spontanément, en tout cas.
Non, mais que des choses puissent être simplifiées, bien sûr, mais est-ce que c'est toujours le plus simple qui est le mieux? Prenons un exemple que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec les nombres, mais avec les lettres. Les claviers d'ordinateur ou de machine à écrire. Comment les lettres sont organisées? Alors, elles étaient organisées au départ parce qu'on voulait éviter que deux lettres trop proches engendrent des blocages. Mais cette difficulté, elle a été complètement supprimée par la suite, puisque la technologie a changé. Et puis, c'était trop tard, on n'allait pas revenir en arrière.
On s'est adapté,
c'est un peu comme l'évolution biologique. Hein. On ne va pas au mieux, on essaye à tout moment d'adapter peu à peu ce qui se passe. Et donc, je pense que c'est un peu pareil pour les nombres. On ne va pas faire des révolutions. Je ne suis pas pour la révolution.
Bon, alors on va faire, pour se distraire de la révolution, on va faire un petit exercice.
Aha.
On va choisir un nombre de 3 chiffres différents. Par exemple 137, et on va l'écrire en renversant, à l'envers. Donc ça donnera 731. 137 donne 731. Un de ces deux nombres est plus grand que l'autre. Je soustrais le plus petit plus grand. Donc 731 moins 137, ça fait 594. Ce 594, je l'écris à son tour en ordre inverse, ça donne 495. Je les ajoute l'un à l'autre. 594 plus 495. Combien je trouve?
1089.
Bravo. Mais ce qui est incroyable, c'est que quel que soit le nombre de départ que j'aurais choisi, je trouve 1089.
Vous avez fait le calcul?
Alors j'ai fait le calcul.
Enfin la démonstration.
J'ai fait la démonstration, mais ça m'a pris un certain temps.
Oui, c'est assez remarquable. Hein.
Et donc, est-ce qu'on ne peut pas faire de la magie avec ça?
Les magiciens ne s'en privent pas.
Alors ça consiste en quoi l'exercice?
Je crois qu'on peut camoufler ce que vous venez de faire en quelques secondes en un tour de magie qui stupéfie les auditeurs ou les spectateurs.
Donc on rappelle la recette, on prend un nombre à 3 chiffres, on l'inverse, on ajoute, on soustrait le plus petit du plus grand, on a un résultat qu'on inverse, on ajoute les deux derniers résultats et ça donne, dans tous les cas...
1089. Ça peut paraître comme ça, magicien.
Est-ce que vous avez d'autres, des...
Des tours de magie ?
Non, des chiffres magiques, des nombres magiques.
Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Bon.
Est-ce que vous connaissez l'explication du fait qu'on parle des chiffres comme étant des chiffres arabes ?
Oui, alors ça, c'est une histoire très compliquée. Il y a un livre que... Alors, non, je suis un peu honte, j'ai oublié son nom. L'histoire des nombres est d'une...
C'est dans votre livre.
Oui. Non, mais c'est rapide, là. Non, mais il y a un livre, un gros pavé, qui raconte l'histoire des nombres. C'est tout assez passionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que nos chiffres, que nous appelons arabes, proviennent d'Inde. Et ils ont été utilisés par la suite par les Arabes. Et les Arabes les ont exportés en Europe. Nous utilisons des chiffres que nous appelons arabes, mais que nous devrions appeler indiens. Et depuis lors, les Arabes ont changé leur système, ont fait évoluer, c'est comme les claviers d'ordinateur, ont fait évoluer leurs chiffres. Ils ont, comme vous le connaissez probablement, des chiffres très différents, qui sont très beaux d'ailleurs, qui sont plus beaux que les nôtres.
Oui,
ils sont même plus beaux.
Oui. Et une esthétique, enfin.
Oui, il y a une esthétique du chiffre qui est tout à fait remarquable.
Vous racontez qu'un jour, vous avez rencontré un mathématicien prestigieux qui a eu la médaille Fields, hein, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, qui n'avait pas fait de relation entre le fait qu'il y a 10 chiffres, de 0 à 9, et le fait qu'on a 10 doigts.
C'est incroyable.
Bah oui, vous lui avez appris ça.
Je lui ai appris ça, je peux même dire
comme
que
ça. C'est... Non, vous dites, je mettais en note en bas de page, je tairais le nom de ce monsieur, mais je peux garantir qu'il était un mathématicien d'exception.
Alors, en exclusivité pour France Culture, il s'agit de Jean-Christophe Iocose, qui est quand même pas n'importe qui, c'était un ami, hein, qui est décédé maintenant, malheureusement. Et je me souviens encore de sa stupéfaction face à cette découverte que les 10 chiffres que nous avons correspondent au fait que nous avons 10 doigts. C'est incroyable, hein ?
Ouais.
Comme quoi, l'enseignement...
On peut apprendre à tous les âges.
Bien sûr.
Et vous... Je ne sais pas si vous le citez, mais en tout cas, c'est une anecdote assez connue. Grothendieck, grand mathématicien, n'était pas très à l'aise avec les calculs, les nombres en général.
Non.
Et il a donné d'ailleurs un cours un jour en disant « Prenons un nombre premier, par exemple 57 ».
Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que quand... Ce n'est pas le lieu de parler des mathématiques de Grothendieck, mais Grothendieck parlait essentiellement des mathématiques dans leur aspect le plus général possible. Et il avait une horreur des exemples. Ça n'était pas ce qui l'intéressait. Il voulait expliquer des théorèmes les plus généraux possibles. Donc, quand il disait un nombre premier, c'était n'importe lequel. C'était pas 3 ou 5. Et on raconte l'histoire qu'un jour, il faisait une conférence et il avait dit, on va prendre un nombre premier, etc. Bon. Et quelqu'un dans la salle dit, écoute, pour que je comprenne mieux, choisis un nombre premier. Et lui, il voulait pas. Et sous la pression, il a fini par dire 57. Sachant que 57, on appelle ça aujourd'hui le nombre premier de Grothendieck.
Qui n'est pas premier.
Hein, 7 et 5, 12, divisible par 3, donc il divisible par 3. Et c'est assez intéressant parce que Grothendieck, avec cette vision des mathématiques dans leur plus grande généralité. Vous savez peut-être que quand Grothendieck est décédé, on a trouvé chez lui un grand nombre de manuscrits. C'est une longue histoire dont on va pas parler.
Récolte et sommeil.
Non, mais ça, c'est avant.
Avant ?
La récolte de Sommat a été écrite dans les années 80, mais on a trouvé des brouillons, des bouts de papier, etc. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de les voir, ces manuscrits, et là, j'ai été absolument surpris, parce que j'ai toujours pensé que Grothendieck ne faisait pas d'exemple. Et dans ces brouillons, il fait des petits calculs, il fait des petits dessins, il se base sur des petits exemples. Donc cette histoire de dire « moi, je vois les mathématiques depuis le ciel », c'est pas tout à fait simple.
Il y a un chapitre, Étienne Gilles, dans votre livre, qui est quasiment consacré à ce qu'on appelait autrefois et qu'on utilise peu, en tout cas qu'on n'apprend plus, qui est la preuve par neuf.
Oui.
C'était très utile pour savoir si un résultat était bon ou pas.
Ou pour s'assurer, en tout cas, qu'il n'y avait pas de... Enfin,
ouais.
Pour avoir un indice que ça soit vrai.
Pas une démonstration, mais
c'est... Alors, j'ai trouvé que c'est intéressant parce que... Moi, j'ai appris ça à l'école primaire. Vous aussi, je pense.
Oui.
Aujourd'hui, on ne l'enseigne plus. Je regrette. C'est un peu mitigé comme point de vue, parce que on m'a appris un truc comme une boîte noire. Tu fais comme ci, tu fais comme ça, et tu verras si ton calcul est correct.
Mmh.
Mais on m'a jamais dit pourquoi ça marchait. Et je n'ai compris pourquoi ça marchait que bien plus tard, disons au lycée, on n'a qu'à dire. J'en ai un peu voulu à mes instituteurs, de ne pas m'avoir expliqué pourquoi ça marchait, comment ça marchait. D'autant plus que je pense que si on prend un peu de temps, on peut l'expliquer à l'école primaire. Mais bon, je suis sûr que la plupart des professeurs des écoles qui m'écoutent vont dire « mais il est fou, on ne peut pas expliquer ça à l'école primaire ». En tout cas, j'ai eu un peu de plaisir dans ce livre de décortiquer un peu cette preuve par neuf qui, je pense, n'est pas si compliquée que ça.
En 1969, donc vous aviez quel âge ?
15 ans.
Ont été introduites les mathématiques dites modernes.
Oui.
Donc vous dites le
plus grand mal.
Le plus grand mal, en tout cas de la façon dont elles ont été installées en enseignement. Moi, je les ai rencontrées en classe de 6e et j'ai vu les traumatismes que ça a engendré chez certains élèves, puisque toute référence à la concrétude du monde était interdite.
Oui.
Et les professeurs n'étaient pas très à l'aise avec ces nouvelles présentations et ça a créé des blocages, même des traumas.
Pour moi, c'était une catastrophe.
Dans une génération. Quel bilan vous en faites ? Est-ce que ça a permis d'améliorer les choses par la suite en constatant ce que vous appelez un tremblement de terre pédagogique ?
Oui, ça a été...
Vous avez des mots assez durs. Hein.
Le problème principal, c'est que ça partait d'un bon principe. Je ne vais pas critiquer les gens qui ont pensé à l'époque, c'était des très grands mathématiciens. Mais c'était des très grands mathématiciens qui n'avaient peut-être jamais vu un enfant, ou en tout cas qui n'avaient pas réfléchi à la pédagogie. Et puis surtout, ça a été imposé à une multitude de professeurs qui n'ont pas été formés à ça et qui tout à coup sont retrouvés en incapacité. Donc moi, j'ai touché les mathématiques modernes, si je me souviens bien, j'étais en seconde. Et mon prof de maths, il avait le plus grand mal, il ne comprenait rien du tout. D'ailleurs, dans ma classe, personne n'y comprenait rien, sauf moi, parce que j'ai toujours adoré ça. Hein. Donc ça a été super pour les futurs mathématiciens et catastrophique pour les normaux, entre guillemets.
Alors, pour préparer cette émission, je me suis amusé à retrouver le premier devoir de mathématiques en classe de 6e.
Ah oui ?
Moi, on était interrogé sur la distributivité de la multiplication sur l'addition, sur les propriétés de transitivité ou non de la relation de sororité et sur le bon usage des diagrammes Sagittaux. J'avais 10 ans.
Quelle note ?
Bon, je ne veux pas en parler parce que mon frère a une très mauvaise note et moi une bonne note et ça crée
des différences. Ouais. Non, mais c'était une erreur. C'était une erreur. Et après, il y a eu des réformes, contre-réformes. Les choses se sont quand même bien améliorées. Bien que, il me semble, ça je passe mon temps à le dire un peu partout, il me semble qu'encore aujourd'hui, on gagnerait beaucoup à rapprocher les maths scolaires des choses concrètes, en particulier de la physique élémentaire, mais aussi la biologie, toutes les sciences en général, mais même le français. Hein. Donc, au niveau de l'école primaire, il me semble qu'on peut tout à fait mélanger les maths avec à peu près toutes les autres disciplines.
Mais même Henri Poincaré disait que pour bien comprendre les mathématiques, il faut déjà bien parler sa langue.
Ben, on est bien d'accord. L'une des grandes difficultés en mathématiques scolaires, c'est que les élèves ont du mal à l'analyse logique des questions qu'on leur pose. Hein. Là aussi, quand j'étais à l'école primaire, on faisait de l'analyse logique et l'analyse grammaticale. Et tout ça, ça a un peu disparu. Mais il n'empêche que c'est l'une des difficultés dans l'enseignement des maths, c'est que les élèves, ils ont du mal à comprendre ce qu'on leur demande.
Et tiens, je crois que justement, vous êtes préoccupé par ces questions d'enseignement. Vous réalisez régulièrement des podcasts sur les mathématiques.
Sur les sciences.
Sur les sciences en général.
En général. C'est une occasion pour moi d'en apprendre.
Donc ça consiste en quoi ? Vous choisissez un sujet et vous l'expliquez à des publics qui sont éventuellement très jeunes ?
Non, j'interroge quelqu'un. Je fais venir un spécialiste et on parle d'un sujet particulier. Pas forcément des mathématiques.
Et c'est une concurrence de la conversation scientifique ?
Je crois que nous, c'est mieux.
On n'a pas parlé des nombres irrationnels. Ah. Change de sujet.
Alors, c'est intéressant parce que il y a les nombres irrationnels, les nombres réels. Hein, et ces nombres réels, je suis un peu inquiet parce que certains mathématiciens, René Thom en particulier, disent que il n'est pas clair que le concept de nombre réel qu'on apprend au lycée, ou qu'on apprenait au lycée, ou qu'on apprenait à l'université, soit le bon concept pour le monde physique. Après tout, les physiciens utilisent des nombres, qui sont en gros des nombres irrationnelle la plupart du temps. Et je ne suis pas convaincu que ce soit les bons nombres pour faire de la physique.
Il y a même un physicien qui dit que justement, la physique n'est pas déterministe parce que tous les nombres qu'elle utilise sont des nombres qui sont coupés après, à partir d'un certain temps après la virgule, et que si on tenait compte de toute la suite, on aurait des phénomènes qui deviendraient indéterministes.
Il y a un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle les nombres calculables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre calculable ? C'est un nombre auquel on peut associer un programme d'ordinateur qui calcule et qui crache les décimales une à une. Par exemple, le nombre pi est un nombre très compliqué, irrationnel, transcendant, tout ce qu'on peut imaginer, mais il n'empêche que je peux écrire sur une feuille de papier un petit programme d'ordinateur qui va, il va mettre du temps, mais il va donner successivement toutes les décimales de pi. En ce sens, le nombre pi est calculable. Mais comme il n'y a qu'un petit nombre de programmes, enfin il y a un nombre fini de programmes de longueur finie, ça veut dire que la plupart des nombres réels ne sont pas calculables. Et donc on a une situation tout à fait étonnante où les physiciens, dans leur et ça marche, la théorie physique fonctionne la plupart du temps très bien, il n'empêche que les physiciens utilisent des nombres qui, pour la plupart, nous sont inaccessibles. Je pense que ça fait réfléchir, c'est un peu vertigineux.
On parlait d'alpinisme tout à l'heure, Étienne Gis, vous connaissez certainement ce roman fameux de René Dommal qui s'appelle Le Mont Analogue, une histoire d'alpinisme assez bizarre, dans lequel il définit l'homme de la façon suivante. L'homme est un bipède sans plumes, inapte à l'intellection du nombre pi.
Parce que le bipède sans plume, c'est Aristote, n'est-ce pas ?
Oui, mais voilà. Il rajoute.
Il rajoute, d'accord. Non, mais c'est très intéressant. Les nombres réels sont, moi je crois qu'on peut dire vertigineux. Parce que nous n'hésitons pas à manipuler des nombres qui nous dépassent totalement.
Mais est-ce que vous êtes capable de, avec le temps qui a passé, de comprendre le choc qu'ont pu ressentir les Grecs quand ils ont découvert qu'il existe des nombres irrationnels, c'est-à-dire des nombres qu'on ne peut pas écrire comme le rapport de deux nombres entiers. La démonstration a été faite par un pythagoricien qui s'appelait Hippase de Métaponte, qui aurait été, dit-on, le maître d'Héraclite, mais les sources ne sont pas fiables. Et une légende raconte qu'on lui aurait érigé de son vivant un tombeau afin de signifier sa mort symbolique.
Bah, moi, j'ai lu qu'on l'a même forcé à se suicider.
C'est pas incompatible. C'est pas contradictoire, ce que je viens de dire.
En tout cas, c'était un choc, parce qu'on pensait que la phrase de Pythagore, là, tout est nombre, on comprenait les nombres comme nombre entier.
C'est la raison qu'ils en font.
Voilà, et que tout à coup, on se dit, mais c'est irrationnel, c'est au-delà de la raison. Hein. Et ça a été, en effet, un grand choc. Et aujourd'hui, il y a un grand débat, d'ailleurs, pédagogique. Et je veux le dire, je trouve ça intéressant. Certains enseignants ou certains inspecteurs généraux pensent que ça serait bien qu'au lycée, on apprenne au moins une vraie démonstration. Quelque chose qui fait réfléchir. Et par exemple, parmi les propositions de vraie démonstration, il y a celle-là, que la racine carrée de 2 est un nombre irrationnel.
Et démonstration par l'absurde.
Par l'absurde, oui. Par
la plus simple.
Il y en a plusieurs démonstrations, mais toutes sont plus ou moins par l'absurde. Et il y a un grand débat de savoir si, au XXIe siècle, il est utile ou pas utile qu'on oblige ou qu'on enseigne ce genre de choses à des lycéens. Moi, je suis assez partisan, mais je suis peut-être un peu trop déconnecté du monde des lycéens qui probablement trouvent ça totalement inutile. Mais je trouve que donner à manger à nos lycéens un truc qui peuvent montrer justement ce choc qui est arrivé du temps des Grecs, je trouve que ça pourrait être...
Ça fait un choc de voir qu'on peut démontrer quelque chose qui est absolument vrai.
Exactement, exactement.
De même que montrer qu'il n'existe pas de plus grand nombre premier, une démonstration assez simple, ça produit un choc.
Exactement. Non, c'est le choc. Moi, j'appelle ça c'est comme une révélation.
Un dévoilement.
Un dévoilement, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, mais je sais pas. Je répète. Je suis un peu. Désolé, je radote un peu. Je trouve que le prof de maths dans sa classe a un avantage par rapport à beaucoup de profs d'autres disciplines. c'est qu'il peut expliquer à ses élèves des vérités que les élèves peuvent s'approprier comme étant les leurs. Alors que dans beaucoup d'autres disciplines, je dis toujours, j'ai rien contre les profs d'histoire, hein, mais si le prof d'histoire dit Marignan 1515, en gros, l'élève doit le croire. Sauf si il faudrait qu'il fasse étudier les sources, et c'est un peu compliqué. Alors que si le professeur enseigne qu'il y a une infinie de nombres premiers, ou que la racine carrée de 2 est irrationnelle, ou le théorème de Pythagore, l'élève peut s'approprier cette vérité. Et là, il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas parce que le prof l'a dit, c'est parce que c'est vrai, et je sais pourquoi c'est vrai. Et je trouve que ça aussi, ça pourrait être très utile dans notre société.
Absolument, parce
où que le vrai est un peu...
Que reste-t-il des mathématiques si on retire des mathématiques la démonstration?
Exactement, pas grand-chose. Pas grand-chose, sauf que... Là, on retombe sur la discussion au début. Des fois, il y a des choses qui sont utiles, puis il y a des choses qui sont belles, qui sont conceptuels, et il est évident qu'il faut un peu des deux. Il est évident qu'il faut apprendre à calculer, parce que effectivement, les calculs sont utiles et nécessaires dans notre société.
Est-ce qu'il y a des questions fondamentales sur les nombres qui tourmentent aujourd'hui les mathématiciens?
On parlait du nombre premier. La question qui fascine beaucoup de mathématiciens, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Riemann, qui en gros consiste à savoir combien de nombres premiers sont plus petits qu'un nombre n. Et on va trouver des estimations pour ce nombre. C'est une petite histoire. Il y a, juste pour terminer, André Weil était l'un des grands mathématiciens, et on l'a interrogé quand il avait 80 ans. Et on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse de Riemann. Et il a répondu... Quand j'avais 20 ans, je rêvais de la démontrer. Quand j'avais 40 ans, je rêvais de lire la démonstration par quelqu'un d'autre. Quand j'avais 60 ans, je voulais juste savoir si c'est vrai. Maintenant, j'ai 80 et je m'en fous.
C'est pas votre cas?
Non, pas du tout. J'ai pas 80 ans.
D'ailleurs, si c'était démontré, qu'est-ce que ça provoquerait comme nouveauté dans le champ mathématique? Comme conséquence utile et pratique, éventuelle?
Pratique... J'en sais trop rien. Est-ce que j'ai un peu de temps pour raconter une petite anecdote sur les nombres premiers? Une fois, j'étais dans une classe de 5e et je voulais leur parler de nombres premiers, justement. Et je voyais que ça n'intéressait personne. Et puis, tout à coup, je leur dis, vous savez, les nombres premiers, ça sert pour des codes secrets. Et je leur dis, il y a des entreprises aux États-Unis qui donnent des sommes conséquentes à toute personne qui trouvera un nombre premier de plus de tant de chiffres. Et là, je vois une gamine là, qui, face à moi, qui dit « Mais monsieur, vous êtes mathématicien, mais qu'est-ce que vous faites avec nous? Retournez chez vous, trouvez-en un plus grand !» Et là, j'étais stupéfait parce que j'avais le sentiment que l'aspect, justement, les nombres sont beaux, c'était l'argent qui l'intéressait.
Bon, la beauté des nombres, à une anagramme qui devrait vous plaire.
Ah, c'est quoi?
Obsédante. Mesurable.
Parfait.
Anagramme trouvé par Olivier Garcia. Merci Étienne Gis d'être venu nous parler.
Merci,
de la beauté des nombres. Je recommande la lecture de votre livre passionnant « Ma petite histoire des nombres » paru aux éditions Odile Jacob. C'était la conversation scientifique avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la réalisation et à la technique Souad Boukorsa.